Radio Kapi.
Les titres de l'actualité, les députés provinciaux de l'Ituri sollicitent de la CENI la prolongation du délai pour le dépôt de candidatures à la députation nationale, au motif qu'ils ont passé plus d'une semaine ici à Kinshasa à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Au Nord Kivu, les habitants de Mabalako et de Kantine, territoire de Beni, dénoncent les menaces dont ils sont quotidiennement victimes de la part des militaires FRDC en patrouille dans la zone. Selon la société civile locale, ces soldats des FRDC leur ravissent quotidiennement des téléphones et de l'argent. Notre invité, c'est le point focal des organisations humanitaires féminines du Sud Kivu. Mireille Mbouyi parle de l'aide accordée aux communautés locales dans le cadre de la collaboration avec les humanitaires. Madame, Messieurs, bonsoir. Le député provincial Jacques Dekana de l'Ituri plaide pour la prolongation de plus ou moins 2 semaines du délai de dépôt de candidature à la députation provinciale. C'est confié en Radio Kapi. Aujourd'hui, l'élu de Djougou affirme que beaucoup de candidats de l'Ituri et du Nord Kivu ont passé plus d'une semaine ici à Kinshasa à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Il demande par conséquent à la CENI de leur accorder le temps nécessaire de constituer leur dossier de candidature. Il est au micro de Grâce Amzati.
Nous sommes venus ici à Kinshasa pour la table ronde convoquée par le chef de l'État. Je suis en train de plaider pour que la CENI puisse prolonger encore plus ou moins 2 semaines. Parce que vous voyez, quand nous sommes venus ici, nous étions en pleine période de la constitution de nos dossiers pour députation provinciale. Et voilà, nous avons été appelés ici. Et nous avons perdu presque 8 jours.
Donc, les élus provinciaux de Nord Kivu, de l'Ituri, qui sont appelés ici, ils ont droit aussi à déposer leur candidature. Mais si les CENI ne parviennent pas à le faire ici, ça serait tout simplement de le priver de leurs droits. C'est comme ça que nous sommes en train de plaider vraiment à gros cœur à ce que la CENI puisse répondre à ces désiderata des députés. C'est pour cela que nous voudrions à ce que la CENI puisse respecter ces désiderata des députés provinciaux de Nord Kivu et de l'Ituri.
Notez que la fin du délai de dépôt de candidature pour l'élection des députés provinciaux et les conseils communaux est fixée par la CENI au 22 août 2023. La situation globale des voies d'évacuation des produits agricoles en RDC et l'urgence des actions à mener pour désenclaver les bassins de production étaient au menu du conseil de ministres présidé vendredi dernier à Kinshasa par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le porte-parole du gouvernement affirme que le mauvais état des routes limite l'accroissement de la production agricole et l'approvisionnement des villes et autres centres de consommation. Patrick Muyaya Katembwe a indiqué que, fort de ces constats, le gouvernement congolais a décidé d'agir au plus vite. Un extrait du compte-rendu choisi par Pelekipe Lamondo.
Face à cette situation, à travers l'action 147 du programme d'action du gouvernement 2021-2023, le gouvernement a prévu de réhabiliter et d'améliorer les voies ferroviaires, les routes des dessertes agricoles et de draguer et baliser les voies fluviales. Pour le président de la République, ces infrastructures constituent les maillons essentiels pour l'accroissement de la production agricole, l'augmentation des revenus des millions des ménages impliqués dans l'agriculture familiale et de manière générale, l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales. En plus des interventions prévues par les volets routes des dessertes agricoles et ouvrages d'art du programme PDL 145 territoires, il est nécessaire que les capacités opérationnelles de l'Office de voirie des dessertes agricoles OVDA soient renforcer que son implication dans l'exécution du PDL soit améliorée. Le président de la République a rappelé que le gouvernement avait pris l'engagement d'accélérer la mise en place du Fonds national d'entretien de voies fluviales et ferroviaires FONEF, le but de cette initiative étant de mettre en place un mécanisme de mobilisation de ressources financières adéquates, autonomes et pérennes pour l'aménagement et l'entretien des voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo.
Le trafic est de nouveau coupé sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du pont Pumfwe qui est à la fois endommagée. Des véhicules sont visibles actuellement de part et d'autre de cet ouvrage dont l'importance est capitale car il relie les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga à celles du Olomami et de l'espace Grand Kassai. Le récit de Jean Gandou rendu par Jacques-Yves Molima.
L'information est livrée par le ministre provincial des infrastructures dans le Olomami et confirmée par le directeur provincial de l'Office des routes. Ce dernier demande aux usagers de cette route de ne pas aller en direction du pont car il n'y a plus de passage. Pour sa part, le ministre provincial des infrastructures rappelle que ce pont construit depuis l'époque coloniale nécessite qu'il soit remplacé par un nouveau capable de supporter les grands tonnages. Notons que ce pont vient une fois de plus d'être endommagé 3 jours après avoir été réhabilité. Raphaël Yolou indique que les premiers travaux étaient provisoires en attendant les pièces attendues de Lubumbashi pour le renforcement de ces ponts jetés sur le fleuve Congo. Ces pièces sont attendues dans les tout prochains jours.
Merci Jacques-Yves Moulibin pour ces précisions. Allons maintenant au Nord Kivu où le directeur provincial de l'Office de route apprécie à sa juste valeur l'avancée des travaux des constructions de la route qui va de Beni à Kassindi par l'entreprise indienne Dot Service. Papi Minga l'a dit vendredi dernier à l'issue d'une mission d'évaluation. Il appelle à l'accélération rapide de ces travaux. Il s'est confié à André Kitenge.
Faire une évaluation de nos axes ici, voir l'état de la route, surtout la route qui est concédée de la RN4 Beni-Kassindi et Kassindi-Boutembo, parce que nous avons une concession où les Ougandais sont en train de travailler, alors il fallait que je vienne voir l'état d'avancement de cette route, ça c'est un. Et puis de deux, il y a une autre concession aussi qui commence de Boutembo jusqu'à Kanyabayong, ça c'est la Banque mondiale qui avait déjà envoyé les entreprises qui sont venues faire une visite de chantier. C'était voir comment nous allons être impliqués dans ces projets-là. Sur terrain, l'état d'avancement, il y a une note de satisfaction au niveau de Beni Kassindi. On voit quand même qu'il y a une mobilisation et les travaux d'élargissement avec l'entreprise d'os évoluent. Mais on trouve que c'est le rendement un peu faible. Mais on a demandé qu'il puisse accélérer. Et le deuxième lot, c'est Beni Boutembo, où on cherche d'abord la base ville là où ils vont s'installer. Nous devons quand même faire pression pour que les travaux puissent bien continuer. Vous savez, au début, on ne croyait pas que cette concession pouvait être vraiment réaliste, mais on trouve que d'ici la fin de l'année, je crois que la route Beni Kassindi sera vraiment bien entretenue et puis nous passerons à d'autres.
Restons au Nord Kivu où deux têtes d'érosion menacent dangereusement de couper la ville de Goma sur la route nationale numéro 2 au niveau des escarpements de Kabacha situés à environ 17 km de la Ruindi dans le territoire de Rutshuru. Ce constat a été fait par le conseiller principal du gouverneur de province en charge des infrastructures. C'était à l'issue d'une mission d'évaluation des projets de 145 territoires au sud de Lubero. On écoute Maître David Kamuha.
Pour l'étape de Kanyabayonga, il s'agissait de venir voir le délabrement de la route au niveau des escarpements de Kabacha. Et nous nous sommes rendus compte des deux endroits les plus compliqués. Et nous allons faire rapport à son excellence, monsieur le gouverneur. Mais nous savons que c'est sur la nationale numéro 2, et donc de la responsabilité du gouvernement central. Et nous allons plaider pour qu'avant la reprise de la circulation entre Goma, Kanyabayonga, Boutembo, que ces deux endroits soient réhabilités. Nous avons également profité de notre occasion pour rappeler à la population que d'ici la fin de l'année, le chef de l'État lui-même ou son délégué viendra ici à Kanyabayonga pour lancer les travaux de l'asphaltage de la route Kanyabayonga-Kerumba-Boutembo. Avec l'appui de la Banque mondiale, mais sur initiative de son excellence, monsieur le président de la République, avec le concours des autorités provinciales, le lieutenant général Kostanima, cette route sera asphaltée dans quelques mois.
Dans un autre chapitre, les habitants de Mabalako et de Kantine, deux agglomérations situées à une quarantaine de kilomètres de Beni au Nord Kivu, dénoncent les menaces dont ils sont quotidiennement victimes de la part des militaires des FARDC en patrouille dans la zone. Selon la société civile d'un groupement de Bassoa, Madiwe, ces soldats des FARDC leur ravissent des téléphones et de l'argent. Justin Kavalami demande aux autorités de restaurer un climat de confiance entre la population et ses soldats. Il a été joint par Marc Marofimbo.
Il y a certains jeunes qui sont tabassés. Leur téléphone est très ravi. Il y a même d'argent qui sont même ravis. Et à Mabalako et à Cantine, imaginez les gens qui sont autour d'eux, qui sont en train de pleurer les lèvres, qui se retrouvent être arrêtés suite d'une patrouille qui commence à partir de 20h des fois vers 21h. Et ça ne montre pas l'image d'une bonne qualité d'une patrouille. Et ce que nous déplorons est que c'est une patrouille organisée par uniquement une équipe. De notre côté, nous sommes en train de demander au chef du groupement Bassoa Madiwe, à sa qualité du président du comité local de sécurité, de convoquer d'urgence une réunion de sécurité pour qu'ensemble nous puissions définir les mesures pour une patrouille. Parce que si on continuera avec cette patrouille qui commence à 20h à 21h, une patrouille qui ne va pas même épargner ceux qui quittent de leur char tardivement, ça va encore causer des problèmes et des fois on est même arrêté.
J'ajoute que le porte-parole des opérations militaires dans la région reconnaît la situation. Le capitaine Anthony Mualouchaï parle cependant du mauvais comportement de certains jeunes des cantines et de Mabalako qui s'attaquent au FRDC. Il les appelle à adhérer au processus de désarmement et démobilisation en cours. En plus bref, le journaliste et directeur de Perfect TV, Peter Tiani, a été libéré hier samedi. Des sources concordantes affirment qu'il a été entendu sur son entretien avec le garde-corps du député national Chérubin Okende peu après son assassinat. Peter Tiani a été interpellé vendredi après-midi au siège de sa télévision. Pour la suite du journal, sachez que 7 personnes tuées, 2 autres grièvement blessées et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan de l'incendie survenu samedi après-midi au camp des sinistrés de Bouchouchou à Mouchoneza dans le territoire de Kalehe au sud Kivu. Le président du cadre de concertation de la société civile de la zone appelle à l'aide des sinistrés. Delphine Birindi s'est confié à Rachel Kessembangou.
Un incendie grave venait de se produire dans le camp provisoire de Mouchoneza à Calais Centre. Et à comme bilan provisoire, 7 morts, 2 blessés graves internés à l'hôpital général d'Ioussi et plus de 400 abris et des biens de population calcinés dans ces abris provisoires au camp de Mouchonezo. Étant à Kinshasa dans des actions de plaidoyer, nous continuons à présenter nos condoléances à notre population du territoire de Calais, surtout nos frères sinistrés qui venaient encore de perdre leurs abris provisoires, les biens et des personnes, tout en demandant au gouvernement provincial qui est national, ainsi que des humanitaires, de continuer à venir en aide de nos frères sinistrés, et ceci en attendant les solutions définitives à la question de la délocalisation définitive de nos frères sinistrés de l'axe Bouchouchou et Nyamukou.
Revenons un instant ici à Kinshasa où le président de l'Association des victimes du Congo a salué ce dimanche la collaboration qui existe entre le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et sa structure. Miran Moulumba apprécie également les dispositions qui se mettent en place actuellement pour indemniser les victimes des atrocités de 1993 à nos jours. Il sollicite par conséquent que les bourreaux répondent de leurs actes devant la justice congolaise. Il est au micro de Blaise Nongala Mayanda.
Je ne peux que me sentir très à l'aise. Le fait qu'il m'ait reçu, qu'il m'ait écouté, il ne m'a pas écouté personnellement, mais il a écouté toutes les victimes de la RDC. Donc c'est un motif de satisfaction, non seulement pour moi-même, mais aussi pour toutes les victimes. Je crois que partant du premier point lié au décret de coopération, nous restons très ouverts, étant donné que mon organisation qui a une base de données, et à son tour, il a dit absolument que ça ne suffisait pas seulement d'avoir cette base de données, mais aussi avec tous les mécanismes mis en place, il verra dans quelle mesure on va absolument procéder à l'identification pour confirmer l'éligibilité, n'est-ce pas, de ces victimes-là qui ont été fauchées dans leurs droits. Les mesures de réparation qui doivent être apportées, que ce soit tant individuel que collectif, ce n'est pas aussi absolument l'attente fatale des victimes, mais notre désir le plus ardent est de voir les auteurs et les co-auteurs impliqués, n'est-ce pas, dans des violations systématiques des droits de l'homme, soit poursuivable devant les institutions judiciaires, tant au niveau national, pourquoi pas au niveau international.
Actualité internationale.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé cet après-midi dans une base de l'armée de l'air néerlandaise située au sud des Pays-Bas, deux jours seulement après le feu vert des États-Unis d'Amérique à l'envoi d'avions de combat américains F-16 à Kiev. C'est ce qu'annonce à la presse le porte-parole du gouvernement néerlandais. La confirmation et les détails de la livraison par les Pays-Bas à l'Ukraine des appareils militaires ne sont pas encore connus. Pendant ces temps, la Russie a affirmé ce dimanche avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens visant Moscou. La deuxième attaque en l'espace de deux jours au moment où ce type d'assaut est en hausse actuellement dans le cadre de la contre-offensive des forces de Kiev. Le ministre russe de la Défense nationale affirme que cette tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste par un drone à Moscou a été tout simplement déjouée.
L'invité.
Notre invité sur le point focal des organisations humanitaires féminines du Sud Kivu, Madame Mireille Mbouyi, parle de l'aide accordée aux communautés locales dans le cadre de la collaboration avec les humanitaires. Elle s'entretient à Bukavu avec Rachel Kessembangou.
Madame Mireille, bonjour. Quel est l'apport des organisations féminines humanitaires dans la réponse humanitaire au Sud Kivu?
Nous sommes en train de commémorer ce que nous donnons dans le monde humanitaire parce que ce n'est pas une tâche facile. Nous sommes exposés à tout. Pendant que nous allons sauver des vies, nous allons aider les autres. Et les organisations humanitaires féminines d'ici de Kivu sont actives depuis très longtemps et elles se restructurent du jour au lendemain. Je vais juste citer les cas récents de Calais où j'ai vu les femmes mobilisées pour aller aider les autres femmes qui ont connu de sérieux problèmes. On a quand même amené un ouf de soulagement. Au niveau de la nouvelle société civile congolaise, quand la coordonnatrice avait vu qu'on avait aussi ses devoirs d'aller soutenir le nôtre qui était en difficulté, mais on n'avait pas de fonds à l'interne, elle nous avait appelé à contourner tous les marchés de la ville, les magasins, avec nos paniers, demander aux gens que celui qui a 500 francs, 1000 francs, cotise pour que nous ayons quelque chose à mener à Calais. Et c'est quelque chose qui a été fait. On avait trouvé un petit rien, mais quand on a amené ça, il fallait voir comment on a été reçu. Et je comprends que nous sommes battantes, nous sommes impliquées. L'humanitaire nous concerne.
Comment sensibilisez-vous le public sur l'accès humanitaire et l'acceptance communautaire?
Je voulais seulement dire au public qu'on ne doit pas vivre en belligérance avec l'humanitaire. L'humanitaire est là pour aider la population. Ça ne donne pas une belle image quand il y a les organisations qui viennent de fois et refoulées par les bénéficiaires. Ça frustre quelque part. On doit collaborer. Quand quelqu'un te donne même un petit rien, c'est déjà beaucoup. Et s'il y a de quoi que, je pense que chez nous en Afrique, on se parle. Là où il y a un ça ne va pas, au lieu de refouler avec méchanceté, il serait bon d'approcher la personne que tu veux refouler. Pour moi, je ne comprends pas ça. Il t'expliquera pour que vous puissiez faire la marche ensemble au lieu de refouler les humanitaires, au lieu de refouler les aides qu'ils amènent.
Quel est l'état des lieux que vous pouvez faire en ce jour de l'aide humanitaire dans notre province?
Je dirais que l'aide humanitaire est acceptée et c'est donné à toutes les couches. Donc on respecte l'aide selon les catégories des personnes. On spécifie l'aide. Nous avons les femmes qui reçoivent de l'aide, il y a les hommes, il y a les personnes vivant avec handicap qui reçoivent de l'aide et nous trouvons que ça va.
Pour rappel, madame, que font les humanitaires au sein de la communauté pour ceux qui ne le savent pas? C'est quoi votre travail?
Notre travail, c'est de faire du bien universellement. Un humanitaire n'a pas de couleur. Donc, je ne veux pas dire que celui-ci n'est pas de ma race, je ne peux pas l'aider. Un humanitaire n'a pas de langue. Même si tu parles une langue qui n'est pas ma langue, parce que tu es dans l'état qu'on doit t'aider, je dois le faire. Et nous sommes là pour aider tout le monde. Les gens qui sont dans la souffrance, pendant les catastrophes naturelles comme celles que nous avons vues à Calais, les inondations et aussi les incendies, même les affres de guerre. C'est ça l'humanitaire.
Quelles sont les difficultés que les actrices humanitaires rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions dans le Sud Kivu?
Oui, je dirais qu'il y a les challenges. Nous avons les organisations qui sont chapeautées par les hommes, qui ont commencé. Et avec nos us et coutumes, voir une femme émerger, il y a les autres qui se battent encore avec leurs cerveau pour accepter ça. Comment une femme peut diriger une organisation? Autre chose, il y a la non-acceptance entre nous femmes. Quand il y a une femme qui émerge dans les sphères humanitaires, il y a les autres peut-être qui ne l'acceptent pas. On ne va pas nous taire. Nous allons les dire. Beaucoup des organisations féminines ne sont pas financées. Vous allez voir, même pour aller donner une réponse, c'est tout un problème. Parmi les défis que nous rencontrons aussi, c'est le kidnapping des acteurs humanitaires. Ça ne donne pas la joie quand un humanitaire expose sa vie pour aider les communautés, qu'il soit victime de kidnapping. Je sais que là, ils sont maltraités. Quelqu'un qui sème la paix, il faut lui retourner la paix. Quelqu'un qui sème la joie, il faut lui retourner ce qu'il a semé, parce qu'on dit on récolte ce qu'on a semé. Celui qui a semé l'aide, aidez-le. Nous sommes les humains comme tous les autres et nous avons besoin aussi de l'accompagnement, que ce soit de nos autorités, que ce soit des services de sécurité, que ce soit de la population que nous sommes en train d'aider.
Je vous remercie.
Et moi aussi, je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le point focal des organisations humanitaires féminines du Sud Kivu. Madame Mireille Mbouyi était interviewée à Bukavu par Rachel Kiesembangu. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Jacques-Yves Molima qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.